Chapitre 16. La Renaissance. Ô race divine, déguisée en homme. Yoron l'attendait sur le perron, quand vers 1h30, Sophie atteignit à bout de souffle la porte du jardin. « Ça fait plus de 10 heures que tu es partie !» s'écria Yoron. Sophie secoua la tête. « Tu veux dire plus de 1000 ans ? Mais où étais-tu ?
J'avais une rencontre sommet avec un moine du Moyen-Âge. Un drôle de type.
Tu es complètement folle. Ta mère a appelé il y a une demi-heure.
Et qu'est-ce que tu lui as dit?
J'ai dit que t'étais partie acheter quelque chose au bureau de tabac.
Et qu'est-ce qu'elle a répondu?
Qu'il fallait que tu l'appelles dès que tu rentrerais. Mais avec mon père et ma mère, ça a été une autre paire de manches. Ils sont entrés dans la chambre sur le coup de 10 heures avec du chocolat chaud et des tartines beurrées. Et ils ont vu qu'un des lits était vide.
Qu'est-ce que tu leur as dit?
J'ai dû inventer quelque chose. J'ai dit que tu étais parti sur un coup de tête parce qu'on s'était disputé.
Alors il faut vite se réconcilier et s'arranger pour que tes parents ne parlent pas à ma mère pendant quelques jours. Tu crois qu'on va y arriver?
Yoron haussa les épaules. L'instant d'après surgit du jardin le père de Yoron en train de pousser une brouette. Il portait un bleu de travail. Il était clair qu'il ne s'était toujours pas fait à l'idée de devoir chaque année enlever toutes les feuilles mortes de l'année passée.
« Mais ma parole, c'est la petite d'à côté, ma fille chérie. Ça y est, l'escalier de la cave est enfin dégagé. Il n'y a plus une seule feuille. »«
Chic !» répliqua Sophie. « Comme ça, on n'a qu'à descendre boire notre chocolat chaud là-bas plutôt qu'au bord du lit. »
Le père eut un petit rire forcé et Yoron tressaillit. Ils avaient toujours parlé de manière un peu plus relâchée chez Sophie que chez le conseiller financier Ingebrigtsen et son épouse.
« Je regrette, Yoron, mais je pensais qu'il fallait que je joue le jeu jusqu'au bout. »«
Dis, tu me racontes un peu ?»«
Seulement si tu me raccompagnes à la maison. »« Ce que j'ai à dire ne regarde de toute façon ni les conseillers financiers ni les poupées Barbie attardées. »«
Comme tu peux être désagréable !»
Tu trouves qu'un mariage qui bat de l'aile et où l'un des deux prend toujours le large, c'est mieux?
Certainement pas, mais je n'ai pratiquement pas dormi cette nuit. Je commence aussi à me demander si Hilde peut voir tout ce que nous faisons.
Elle s'était mise en route vers l'allée des trèfles. Tu veux dire que c'est une voyante?
Qui sait? Encore que...
Il était clair que Yoron n'était pas très emballé par toutes ces cachotteries.
« Mais ça n'explique pas pourquoi son père envoie des cartes délirantes à un chalet abandonné en pleine forêt. »«
Je reconnais qu'il y a là quelque chose qui ne colle pas. »«
Tu ne veux pas me dire où tu as été ?»
Alors, elle cracha le morceau. Sophie parla aussi du mystérieux professeur de philosophie. Elle ne le fit que contre la promesse expresse que tout cela resterait entre elles. Elles marchèrent longtemps sans prononcer un mot.
« Ça ne me plaît pas, ces histoires !» dit Yoron lorsqu'elles s'approchèrent du toit de l'allée des trèfles.
Elle s'arrêta devant le portail et fit mine de s'en retourner.
« Mais personne ne t'a demandé si ça te plaisait. La philosophie n'a jamais prétendu être un simple jeu de société. Ça parle de qui nous sommes et d'où nous venons. Tu trouves qu'on apprend suffisamment de choses à l'école, toi ?»«
Personne ne peut répondre à des questions pareilles. »«
Peut-être. » Mais nous n'apprenons même pas à nous poser ce genre de questions.
Le potage du samedi fumait déjà sur la table quand Sophie entra dans la cuisine. Il n'y eut aucune remarque sur le fait qu'elle n'avait pas rappelé de chez Yoron. Après le repas, elle déclara qu'elle avait envie de faire la sieste, en laissant sous-entendre qu'elle n'avait pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Ce qui était somme toute plutôt normal quand on passe la nuit chez une amie. Avant de se coucher, elle se regarda dans le grand miroir en laiton qu'elle avait accroché au mur. Elle n'y vit d'abord que son visage blême aux traits tirés. Puis, elle crut tout à coup distinguer le contour très flou d'un autre visage, en filigrane du sien. Sophie prit une ou deux profondes inspirations. Il s'agissait de garder la tête froide. Sous son visage pâle, encadré des cheveux noirs qui ne toléraient aucune autre coiffure que celle de la nature, c'est-à-dire lisse et tombant droit, transparaissait aussi l'image d'une autre jeune fille.
L'inconnu mit soudain toute son énergie à cligner des deux yeux. C'était comme si elle avait voulu, par ce biais, signaler sa présence. Ce ne dura qu'un bref instant. Puis, elle disparut. Sophie s'assit sur le lit. Elle ne douta pas une seconde que c'était Hilde qu'elle venait de voir dans la glace. Elle avait eu l'espace de quelques secondes le temps d'entrevoir son visage sur le certificat de scolarité trouvé dans le chalet du major, et c'était bien la même fille qu'elle venait de voir dans le miroir. N'était-ce pas bizarre qu'il lui arrivât toujours des choses étranges de ce genre quand elle était morte de fatigue? Elle finissait par se demander après si elle n'avait pas tout bonnement rêvé. Sophie mit ses vêtements sur une chaise et se glissa sous sa couette. Son sommeil fut troublé par un drôle de rêve, à la fois marquant et clair. Elle rêva qu'elle se trouvait dans un vaste jardin qui donnait sur un petit hangar rouge à bateaux. Sur la jetée, près du hangar, était assise une fille aux cheveux clairs qui scrutait la mer. Sophie allait vers elle et s'asseyait à ses côtés. Mais c'était comme si l'inconnu ne remarquait pas sa présence. « Hilde, c'est moi, Sophie !» disait-elle en se présentant. Mais l'inconnu ne pouvait ni la voir, ni l'entendre. « Tu m'entends, Hilde? Ou est-ce que tu es sourde et aveugle ?» prononçait Sophie. En effet, l'inconnu ne percevait pas les paroles de Sophie. Puis, on entendait tout à coup une voix d'homme crier « Hilde, chérie !» Immédiatement, la jeune fille se levait et remontait vers la maison en courant. Elle n'était donc ni sourde ni aveugle. Un homme qui n'était plus tout jeune courait à sa rencontre. Il portait un uniforme et un béret bleu. L'inconnu se jetait à son cou et l'homme la faisait tourner dans les airs. Sophie remarquait alors que l'inconnu avait laissé une chaîne avec une petite croix en or sur le bord de la jetée et la ramassait. Là-dessus, elle se réveilla. Sophie regarda sa montre. Elle avait dormi quelques heures. Elle se redressa dans son lit et réfléchit à son rêve étrange. Il s'imposait si clairement à son esprit qu'elle avait l'impression de l'avoir vraiment vécu. Sophie était persuadée que la maison et la jetée qu'elle avait vue dans son rêve existaient quelque part. N'était-il pas peint sur le tableau qui se trouvait dans le chalet du major? En tout cas, la fille ne pouvait être que Hilde Möller-Knag, et l'homme, son père qui revenait du Liban. Dans son rêve, il ressemblait un peu à Alberto Knox. Quand Sophie se décida enfin à mettre un pied hors de la couette et voulut faire son lit, elle découvrit sous l'oreiller une chaîne en or avec une croix. Au dos de la croix étaient gravées trois initiales, H.M.K. Ce n'était pas la première fois que Sophie rêvait qu'elle trouvait des objets précieux, mais c'était bien la première fois qu'elle en trouvait dans un rêve. « Ça, c'est trop fort !» s'exclama-t-elle à haute voix. Elle était si en colère qu'elle ouvrit la porte du placard et se contenta de lancer sur l'étagère du haut la jolie chaîne qui alla rejoindre le foulard en soie, le mi-bas blanc et toutes les cartes postales du Liban. Le dimanche matin, Sophie fut réveillée pour prendre un copieux petit déjeuner avec des petits pains chauds, du jus d'orange, un œuf et une salade à l'italienne. Il était rare que sa mère soit levée avant elle le dimanche. Mais quand ça arrivait, elle mettait un point d'honneur à préparer un bon petit déjeuner avant de réveiller sa fille. Tandis qu'elle déjeunait, sa mère dit « Il y a un chien que je ne connais pas dans le jardin. Il a traîné autour de la vieille haie toute la matinée. Tu n'aurais pas une idée par hasard de ce qu'il fait là ?»« Mais si !» laissa échapper Sophie, qui se tut aussitôt, se rendant compte qu'elle avait trop parlé. « Il est déjà venu ?» Sophie s'était déjà levée et jeta un coup d'œil par la fenêtre du salon qui donnait sur le grand jardin. Hermès montait la garde devant l'entrée secrète de son quartier général. Que dire ? Elle n'eut pas le temps de se préparer que déjà sa mère était à ses côtés. « Tu dis qu'il est déjà venu ici ?»« Oh, il a dû enterrer un os et il revient déterrer son trésor. Les chiens aussi ont de la mémoire.
C'est possible, Sophie. Dans la famille, c'est toi la psychologue pour animaux.
Sophie réfléchit et prit une décision.
Je vais le suivre jusqu'à chez lui, dit-elle.
Tu sais où il habite ?
Elle haussa les épaules.
Oh, il porte certainement un collier avec son adresse dessus.
Quelques minutes plus tard, Sophie franchissait la porte d'entrée.
À peine Hermès l'eut-il aperçu qu'il se leva en remuant la queue comme un fou et lui fit la fête.
« Bon chien, Hermès, bon chien !» dit Sophie.
Elle savait que sa mère l'observait de la fenêtre, pourvu qu'il ne passe pas la haie. Mais le chien, couru vers le chemin de gravier devant la maison, traversa la petite cour et fit mine de sauter par-dessus le portail. Une fois de l'autre côté, Hermès continua à la devancer de quelques mètres. Le sentier serpentait à présent entre les pavillons. Sophie et Hermès n'étaient pas les seuls à se promener par ce dimanche après-midi. Des familles entières étaient de sortie et marchaient d'un bon pas. Sophie eut une pointe d'envie en les regardant. Il arrivait que Hermès suivît les traces d'un autre chien ou renifla quelque chose dans le fossé et disparaisse alors quelques instants. Mais Sophie lui ordonnait « Hermès, viens ici !» et il revenait trotter à côté d'elle. Ils eurent au fait de traverser un ancien parc portuaire, un grand stade et un jardin public. Ils débouchèrent dans un quartier plus animé et continuèrent à se diriger vers la ville en suivant une large avenue surmontée de ponts et où circulaient des tramways. Une fois dans le centre-ville, Hermès traversa la grande place et remonta la rue de l'église. Ils atteignirent la vieille ville où se pressent de vastes demeures de la fin du siècle dernier. Il était presque 1h30 et ils se retrouvaient maintenant à l'autre bout de la ville. Il était rare que Sophie s'aventurât si loin. Une fois seulement, quand elle était petite, elle avait rendu visite à une vieille tante qui habitait dans ce coin-là. Ils parvinrent à une petite place levée entre de vieilles bâtisses qui portait curieusement le nom de « Nouvelle Place », alors que les fondations de cette partie de la ville remontaient au Moyen-Âge. Hermès alla droit vers l'entrée du numéro 14 et attendit que Sophie ouvre la porte. Elle sentit comme une crampe à l'estomac. Dans l'entrée, il y avait un panneau avec des boîtes aux lettres vertes. Sophie remarqua qu'une carte postale était collée sur une des boîtes de la rangée supérieure. La carte portait le tampon de la poste indiquant que le destinataire n'habitait pas à cette adresse. Le destinataire était Île de Møllerknag, nouvelle place, numéro 14. Le cachet indiquait le 15 juin. Il restait encore 2 semaines jusqu'à cette date, mais le postier n'y avait visiblement pas prêté attention. Sophie détacha la carte de la boîte aux lettres et lut. Chère Hilde, Sophie arrive à présent à la maison du professeur de philosophie. Elle aura bientôt 15 ans, alors que toi, tu les as eus hier. À moins que ce ne soit aujourd'hui, ma petite Hilde. Si c'est aujourd'hui, c'est en tout cas plus tard dans la journée. Il faut dire que nos montres ne sont pas toujours réglées sur la même heure. Une génération vieillit tandis qu'une autre voit le jour. Pendant ce temps, l'histoire poursuit son chemin. As-tu jamais pensé à comparer le déroulement de l'histoire avec la vie d'un homme? L'Antiquité serait l'enfance. Puis viendrait le long Moyen-Âge, semblable à un jour d'école pour l'Europe. Mais voilà la Renaissance. La classe interminable est finie et la jeune Europe trépigne et piaffe d'impatience à l'idée de se jeter dans l'existence. On pourrait aller jusqu'à dire que la Renaissance correspond aux 15 ans de l'Europe.
Nous sommes en plein mois de juin, mon enfant. Dieu qu'il fait bon vivre et que la vie est belle.
P.S. J'ai été désolé d'apprendre que tu avais perdu ta croix en or. Il faut que tu apprennes à faire plus attention à tes affaires.
Amicalement, ton papa qui est juste au coin de la rue.
Hermès était déjà en train de monter l'escalier. Sophie garda la carte à la main et le suivit. Elle dut monter les marches 4 à 4 pour ne pas le perdre de vue.
Il agitait joyeusement la queue.
Ils dépassèrent le premier, deuxième, troisième et quatrième étage.
on débouchait ensuite sur un escalier étroit qui montait encore plus haut. Il n'allait quand même pas grimper jusqu'au toit. Mais Hermès s'attaqua à l'escalier avant de s'arrêter devant une porte étroite à laquelle il se mit à gratter.
Sophie entendit de l'intérieur des pas approcher. La porte s'ouvrit et Alberto Knox apparut. Il avait changé de costume, mais aujourd'hui aussi, il s'était déguisé. Il portait des mi-bas blancs, un pantalon bouffon rouge et une veste jaune avec des manches gigots. Il faisait penser à un joker dans un jeu de cartes. À l'évidence, il portait des vêtements typiques de la Renaissance.
« Espèce de clown !»
s'écria Sophie en l'écartant pour entrer dans l'appartement. De nouveau, le professeur de philosophie dut faire les frais de l'attitude quelque peu cavalière de Sophie, qui, en fait, n'en menait pas si large que ça. La carte qu'elle avait trouvée dans l'entrée n'arrangeait rien.
« Il n'y a vraiment pas de quoi se mettre dans cet état, mon enfant !» dit Alberto en refermant la porte.
« Tiens, voici le courrier !»
dit Sophie en lui tendant la carte, comme si elle l'en tenait pour responsable. Alberto lut ce qui était écrit sur la carte et secoua la tête.
« Il ne manque vraiment pas d'air, celui-là. On dirait qu'il se sert de nous pour distraire sa fille le jour de son anniversaire. »
En disant ces mots, il prit la carte et la déchira en 1000 morceaux qu'il jeta dans la corbeille à papier.
« Il est écrit sur cette carte que Hilde a perdu une croix en or, » dit Sophie.
« Oui, j'ai lu. »
« Eh bien, j'ai justement retrouvé cette croix à la maison dans mon lit. Tu peux m'expliquer ce qu'elle fait là ?»
Alberto la regarda droit dans les yeux.
« Ça fait peut-être de l'effet, mais au fond, il n'y a rien de plus simple comme truc. Ça ne lui demande aucun effort.
Essayons plutôt de nous intéresser au grand lapin blanc qui sort du chapeau haute forme de l'univers. » Ils passèrent au salon. Et jamais Sophie n'avait vu un salon aussi bizarre.